Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% handball. Je suis Romain Echeverry, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français. Entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Manon Houette. Bonjour Manon.
Salut.
Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de te présenter, mais je te propose quand même de faire une petite présentation si tu le veux bien.
Ouais, ça marche. Du coup, Manon Houette, j'ai bientôt 31 ans. J'ai un parcours assez classique dans le handball puisque je suis passée par les structures classiques de sport-études, centre de formation. Et voilà, j'ai démarré ce petit parcours en Sarthe, puis je suis arrivée à Fleury-les-Aubrais où je suis restée 6 ans, où je suis passée pro. Et puis ensuite, je suis partie 1 an en Allemagne, j'ai fait 4 ans à Metz, 1 an à Bordeaux-Péage. Et là, j'entame ma seconde année à Chambray-les-Tours. Et pendant toute cette petite dizaine d'années, j'ai fait environ 5 ans en équipe de France où j'ai pu gagner quelques médailles. Donc voilà un peu le parcours.
Je le décortique un peu plus, mais tu disais, tu as fait une année en Allemagne. Alors, je voulais savoir un petit peu comment c'était passé, parce que à l'époque où tu es parti, c'était pas encore aussi démocratisé que les joueuses, surtout les joueuses partent beaucoup. Donc, savoir un peu comment tu l'avais vécu, si c'était vraiment différent. Tu nous parles un peu de cette expérience.
Oui, alors ça arrive à un moment où, bon, bah, après 6 ans à Fleury, où je passe par tout là-bas, donc le centre, le passage à pro, je me suis fait les croisés, on est relégable, ensuite on joue la Ligue des Champions, enfin il s'est vraiment tout passé à Fleury, mais au bout de 6 ans j'avais vraiment fait le tour. Et en fait, à l'issue de ça, je veux partir, mais il n'y a rien qui me chauffe plus que ça en France. Donc, enfin, je fais le tour, puis bon, bah, je me dis, ouais, ça non, ça non, ça non, je vais vraiment au feeling dans mes contrats. Donc là, il n'y avait rien qui. Donc, je me suis dit, allez, bah, c'est peut-être le moment de tenter un truc à l'étranger. À ce moment-là, je contacte Siraba Dembélé, qui me met en contact avec son agent, André Golic, avec qui je travaille depuis, et qui me dit, bah, tu veux partir à l'étranger, mais tu veux quoi? Moi, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas. Et il me dit, bah, tu veux un championnat qui joue beaucoup de matchs. Tu vois, à l'époque, il y avait Vardar, mais qui n'avait pas de championnat en interne, comme peut-être Crime aujourd'hui et tout. Et j'ai dit, ouais, je veux jouer un maximum de matchs, j'ai la pêche et tout. Donc, il dit, bah, les bons championnats, c'est le Danemark, la Hongrie et l'Allemagne. Il dit, et dans ces championnats-là, tu veux le premier ou le deuxième? Je fais, bah, ouais. Et du coup, ça a été très simple. Il a appelé. À l'époque, il commence par la Hongrie, il appelle Gyor et FTC qui disent qu'il n'y a pas de place à l'aile gauche. Et ensuite, il entame l'Allemagne, et il appelle Thuringer et Thuringer dit ouais, trop chaud, on la connaît bien, on voudrait qu'elle vienne. Et du coup, on arrête de passer des coups de fil et je décide d'aller là-bas, quoi. Enfin, ça s'est fait vraiment assez simplement. Mais ce qui était fou, c'était de partir à l'étranger, mais c'était aussi de partir en Allemagne, puisqu'il y a très, très, très peu de Françaises qui ont joué dans ce pays. Mais moi, à l'époque, j'ai pas ce feedback là et je me dis, bah, au contraire, l'Allemagne, ça me semble quand même peut-être plus accueillant que les pays scandinaves ou que la Hongrie, en fait, vraiment, et un peu plus ressemblant, un peu plus proche de la France. Enfin, du coup, je vais là-bas faire des tests, enfin, voir, en fait, visiter et ça se passe bien, les gens sont gentils, le club a l'air cool. Du coup, en rentrant des Jeux Olympiques en 2016, je déménage là-bas. Et puis là, s'ensuit une année pleine de surprises, quoi. Puisque, en effet, c'est très, 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 très différent. Donc, la manière de travailler, évidemment, la langue, la vie, le championnat, tout, tout, tout était extrêmement différent. En fait, là, c'était poussé à son maximal, mais c'était intéressant.
Je sais pas, c'était un entraîneur allemand que tu avais ou c'était un entraîneur d'une autre nationalité?
Non, allemand, ouais.
Ouais. Et du coup, ouais, tu as senti une vraie différence dans les attentes, dans les savoir-faire demandés, dans les projets de jeu, tout?
Ouais, après, en fin de compte, je ne peux pas faire une généralité sur comment ça coach ou qu'est-ce que veulent des entraîneurs allemands. En fait, c'est ce gars. Parce qu'en vérité, en France, tu vas te prendre deux entraîneurs français qui n'auront jamais rien à voir. Donc non, non, non. Herbert Müller, là, qui est encore en poste là-bas, bah voilà, déjà, c'est d'arriver dans un club où l'identité du coach, elle est imprégnée puisqu'il est là depuis des années. Tu vois, je ne sais pas combien de temps, c'est peut-être, j'en sais rien. Vraiment très, très, très longtemps qu'il est là-bas. Donc, comme un canaillé à Montpellier et tout ça, ben voilà, l'identité club, c'est l'identité coach. Je découvre des entraînements qui durent 2 heures avec des échauffements extrêmement longs sur des jeux. Mais des jeux, ça va être à la base de base de faire un hockey ou de faire un basket ou de faire un foot et tout. Mais par contre, à gueuler pendant 40 minutes de jeu d'échauffement, fight, 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 fight. Et genre, il n'y avait aucune règle, quoi. Aucune règle. Et les meufs se tapaient, se poussaient contre les murs. Et moi, au début, je me marre. Je fais, bah, attends, mais c'est une blague et tout. Et non, en fait, ils t'inculquaient le truc du écoute, on va avoir une équipe de guerrières. Quoi qu'il
Ouais.
arrive, on sera toujours les premières à sauter sur les ballons. On sera toujours les premières à se battre. Je découvre un championnat où tu peux prendre énormément de risques au shoot. Si tu fais 10 sur 20, c'est bien parce que
D'accord.
tu as pris des risques, parce que voilà, il faut jouer vite, il faut prendre des risques en attaque et puis essayer de mettre des coups en défense. Enfin, voilà, dans un truc où en France, on essaye toujours d'être efficace, encore plus chez les filles, où l'efficacité prime. Bah là, non, c'est vraiment la prise de risque, le jeu rapide et tout. Donc trop cool, beaucoup de liberté et de la liberté aussi dans le fait que je comprenais pas tout.
Ben
Donc
oui.
peut-être qu'il m'a dit des trucs et je me disais, bah, tu sais quoi, je sais pas. Donc non, puis quand t'arrives, je change de statut, mine de rien. À Fleury, j'étais la petite
Ben
du club.
oui.
Et puis bon, bah là, ouais, j'arrive en tant qu'étrangère. Je rentrais des Jeux Olympiques où j'avais fait une médaille. Donc j'avais quand même beaucoup de cartes en main, de responsabilités. Donc ça, c'était assez agréable, quoi.
Ouais, ça t'a apporté vraiment beaucoup de choses quand même pour la suite.
Ouais, honnêtement, c'était vraiment dur, hein, parce que d'être toute seule. Parce que t'as des. Par exemple, à l'époque, il y a Estelle Enzeminko qui part avec Chloé Bulleux en Hongrie, dans un club où il y a déjà une Tunisienne. Enfin bref, où ça parle un peu français. Je veux dire, moi, j'arrive solo de chez solo, quoi. Et en plus, je parle très mal anglais, je parle pas allemand. Donc j'arrive dans un wild où enfin, je suis un peu à l'arrache, donc j'arrive en mode ça va le faire. Et ça le fait, mais c'est quand même très. C'est très à l'arrache, quoi. Mais c'était, oui, c'est très enrichissant, bien sûr.
Ok. Alors, je voulais qu'on parle aussi bah, de ton club actuel, Chambéry. T'es parti il y a un an. C'est un club qui est montant, donc je voulais savoir comment ça se passait pour toi. Puis surtout, est-ce que ça t'avait vraiment changé des clubs français parmi lesquels t'es passé, ou est-ce que tu retrouves un peu des choses similaires?
Non, c'est ultra différent.
Ouais.
Mes expériences, et c'est ça la richesse, c'est peut-être par rapport au choix que je fais, ou alors simplement tous les clubs sont très différents. Mais non, ce que j'ai pu connaître avec Fleury, donc l'ascension fulgurante de une année, tu es relégable et la saison suivante, tu joues le titre, c'était quelque chose. Mais oui, en termes de structure de club, le début de Fleury, c'est presque un peu ce que je vis là à Chambray. Bon, après, Metz, évidemment, c'est pas comparable. Et puis Bordeaux-Péage. Bah, Bordeaux-Péage, c'était encore plus. C'était fou parce qu'en termes de structuration, ils étaient très en avance. C'est-à-dire que en termes de qualité du staff, avec énormément de personnes, des conditions d'entraînement très qualitatives, un groupe qui vivait extrêmement bien. Donc tout ça, il a fallu le quitter déjà. Ça a été une démarche vraiment compliquée. Et d'arriver à Chambray avec un staff nouveau et 9 nouvelles joueuses, dans un club qui grandit en effet. Et qui grandit à son rythme, contrairement à ce que j'ai pu connaître bah, à Bordeaux-Péage ou à Fleury, où ça a grandi d'un coup et où du coup, ça, après, c'est, voilà, ça c'est compliqué. Là, ils sont prudents, donc ils grandissent petit à petit. Mais du coup, ça va doucement. Mais c'est normal. Sinon, on voit bien ce que ça fait quand ça va trop vite.
C'est
Donc,
ça.
du coup, moi, à vouloir, OK, bah, on a une équipe très qualitative, on a des grosses ambitions, bah, voilà, il faudrait faire ça, ça, ça pour améliorer les choses. Et ils m'ont dit, eh, Manon, freine un peu la vérité de notre situation financière, c'est que on avance, mais il faut vraiment qu'on avance doucement. Et là, le fait est que les objectifs sont remplis. On est quatrième, on est en Coupe d'Europe, donc le bilan est extrêmement positif.
Donc,
Mais
très bien,
c'est vrai
ça.
qu'à en vouloir toujours plus dans la qualité des conditions d'entraînement, quoi.
On a parlé vite fait de ton palmarès équipe de France, mais qui est quand même plutôt bien, bien rempli. Je voulais savoir justement ces années équipe de France un petit peu, comment tu les avais vécues, et puis un petit peu bah, si tu peux nous partager ton expérience, notamment bah, quand vous êtes sur une compète. C'est vrai que c'est une semaine, 15 jours un peu enfermé sur soi-même, un peu particulière, savoir si tu pouvais nous partager un peu cette expérience.
Ouais, une compète, c'est 1 mois, hein. Tu pars 1 mois,
Oui, c'est ça, avec
plus
la
d'un mois
prépa.
avec la. Ouais, de fou. Donc c'est. Ouais, c'est. Et c'est très particulier. Trois quarts du temps, bah voilà, tu es dans des pays un peu. Enfin, où beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de pays scandinaves où tu es enfermé, où tu es vraiment rythmé par rapport aux entraînements, au groupe, à la fatigue, à la pression, à tout ça, aux séances vidéo. Et c'est fou, tu es dans une bulle, en fait. Tu es vraiment, vraiment dans quelque chose d'à part qui ressemble en rien à ce qu'on peut vivre en club où bah là, on te fait à bouffer, tu dois dormir à telle heure. Enfin, je veux dire, c'est complètement différent. Et puis surtout, tu vis émotionnellement. Toutes les émotions sont démultipliées parce que tu es enfermé. C'est presque de la télé-réalité, le truc, tu vois. Tes relations sont amplifiées, tes émotions sont amplifiées. Et du coup, j'avais l'habitude de dire, mais tous les jours, tu pleures de joie et de soit de tristesse ou soit de fatigue, soit tous les jours. Alors moi, oui, je suis un peu intense aussi, mais c'est pas pleurer, pas pleurer, c'est juste que voilà, c'est intense. Et puis potentiellement, il y a ça aussi, c'est que vu que tu as un match tous les 2 jours, tout peut basculer très rapidement. Et on le voit, en fait, même les compètes qu'on a gagnées. Bah, en vérité, il y a toujours, tu sais, un match qui se gagne à la dernière seconde, un truc improbable qui arrive, ou un tirage, c'est ça, et puis tu comptes en même temps, tu vois, tu passes ton temps à compter, et si lui il gagne, et si lui il perd, et si truc, mais en même temps, on s'en fout parce qu'il faut tout gagner, et c'est ça l'important. Mais bon, t'es quand même en train de compter. Et puis, ouais, il y a cette vie en communauté, quoi, qui est jamais anodine, que t'es obligé de prendre en compte. Nous, tout a pour moi basculé dans quelque chose d'extrêmement positif à partir de l'arrivée du prépa mental. Parce qu'à partir de son arrivée, tu rentres dans des discussions quotidiennes de groupe pour faire avancer le groupe et pour te rappeler sans cesse qu'en fait, tout le monde a le même objectif, individuel et collectif, et que le plus important, c'est de gagner, quoi. Et en fin de compte, quand tu te regroupes et après une victoire ou une défaite, et quand tu fais un débrief collectif de ce que tu ressens individuellement, ce que tu as envie pour le groupe, etc., les débriefs sont souvent ultra enrichissants et puis se recoupent bien souvent. Tu vois. Je me souviens encore de perdre la demi-finale contre la Norvège à l'Euro 2016, et tu vois, tout le monde est dévasté, quoi. Et il s'ensuit, putain, mais qu'est-ce qu'on a mal fait, mais qu'est-ce que truc, mais elle a truc, mais elle a. Et en fin de compte, 1 heure après, on est convoqué avec le prépa mental. Et là, tu vois, tout le monde vide son sac. Parce que le lendemain, tu as le match pour la médaille de bronze. Et qu'en fait, tu n'as pas le temps de tergiverser, d'avoir des états d'âme, de trucs. Non, il faut te reconcentrer sur la suite tout le temps. Et cet exercice-là, mental et physique, il est beaucoup plus efficace quand tu peux vider ton sac pour ensuite te remobiliser plutôt que de gamberger, tu vois. C'est trop, trop, trop enrichissant.
Et comme tu disais, cette vie entre guillemets en promiscuité que tu n'as pas l'habitude d'avoir en club, même si tu voilà, tu as des amis, tu passes du temps avec, mais c'est quand même complètement différent. Tu vois, comme tu disais, vous êtes un peu enfermé dans un château. Est-ce que c'est pas hyper dépaysant la première fois que tu le vis et enfin, tu comprends pas quoi. Tu te dis, c'est fou quoi, et c'est hyper dur à vivre aussi à la fois quoi.
Ouais, c'est dur. Alors ouais, c'est ça la différence avec ton quotidien, c'est que t'as pas le choix. C'est-à-dire que là, si tu as envie de bouffer avec les meufs de ton équipe, au quotidien, tu le fais pas. Autant là, non, matin, midi, soir, nuit, t'es jamais solo. Et nous, j'étais en chambre avec Estelle et Domingo beaucoup, et des fois c'était ça, tu vois, besoin de s'extirper un petit peu de ce truc, pas de galère avec les autres, mais juste besoin des fois d'être seul ou de couper ou de
Bien
juste
sûr.
plus être dans le même environnement pendant quelques heures, quoi. Et à être à la recherche de ça, pour te dire, c'est débile, mais à la fin, sur les compètes, on emmenait du thé, de la décoration, des trucs, on essayait de capter s'il y avait des trucs à faire. Parce que besoin aussi de se sentir chez soi, un peu, plutôt que dans ce truc un peu dépersonnalisé de l'hôtel, ou des fois d'essayer de bouffer dehors, ou juste de prendre un café, tu vois, pour t'aérer l'esprit. Pour certaines, c'est OK, elles ont presque pas besoin de ça, ou ça les dérange pas du tout. Et pour d'autres, nous, ça bouillonnait, quoi. Donc, ouais, la première compète, moi, je m'en rappelle comme quelque chose de pas ultra funky. Après, c'était aussi la dernière avec Alain Porte, on était au Danemark, on avait fini 8e. Enfin, voilà, le scénario n'était pas foufou. Mais ouais, avec du recul, en fait, ce qu'il faut, et ça, c'est comme dans la vie, pour le coup, c'est qu'il faut que tu trouves tes personnes repères un peu, tu vois, les gens. Et puis que tu trouves tes habitudes et que tu te cales, que tu subisses, faut jamais subir le moment, quoi.
J'avais une petite question qui m'est venue là avant que tu nous racontais. Tu parlais du débrief d'après demi-finale perdue. Est-ce que, parce que ça, c'est vrai quelque chose dont on parle jamais, mais est-ce que quand vous finissez, que ce soit une finale ou un match pour la troisième place, vous faites quand même un retour sur le match qui vient de se passer? Parce que souvent, on a tendance à dire que la compétition est terminée, les gens repartent de leur côté. Est-ce qu'il y a quand même des débriefs de ces matchs-là?
Ah, c'est intéressant, je m'en rappelle pas plus que ça. Non, ouais, la compète est finie. Hein. Alors, ce qui se
Ouais.
passe en équipe de France, c'est que tu as des débriefs de compète. C'est-à-dire que quand la compète a lieu en décembre et tout, tranquillement, bien sûr, tu clôtures la compétition avec une réunion et tout, mais c'est plus une clôture de compétition qu'une clôture du dernier match en particulier.
Ouais.
D'autant plus si tu l'as gagné, ou là, bon, bah, ma foi, tu es juste content, quoi. Il y a pas.
Mmh.
Mais
Ouais, c'est
après, il y
ça.
a plus des débriefs, il y a plus des débriefs à froid. Alors, je suis aussi persuadée qu'il y a des débriefs potentiellement à chaud ou juste après, peut-être avec les cadres ou tu vois, dans quelque chose de. Puis entre le staff, ça c'est bien évident, ils doivent le débriefer 4 millions de fois. Mais ensuite, ça se fait plus à froid. Je sais qu'Olivier passe des coups de fil ou envoie des mails ou demande des débriefs tranquillement en janvier, février pour préparer la suite, pour
D'accord.
toujours utiliser la compète, qu'elle soit positive ou négative, utiliser les performances pour performer d'autant plus par la suite, quoi.
D'accord. Et alors, justement, tu parlais de débrief vidéo. Toi, je pense que tu fais partie de la génération qui a vu évoluer la vidéo et qui est passée de vidéo collective à vidéo individuelle, voire même ultra précise. Comment toi tu le vis ces débriefs vidéo? Comment tu as vu l'évolution?
Moi, c'est pas mon domaine de prédilection, hein.
Ouais.
La vidéo, les stats, tout ça, parce que je suis vraiment, vraiment dans ma personnalité, quelqu'un d'ultra spontané, fait
Ouais.
que ça, c'est plutôt quelque chose qui va me brider plutôt
Ouais.
que me rassurer. Donc, oui, j'ai vu l'évolution et c'est ça qui est génial, c'est que pour certaines, c'est devenu une énorme clé de performance.
Ouais.
Pour celles qui ont vraiment besoin. Alors notamment, évidemment, pour plus les postes 3, les gros stratèges de défense pour les gardiennes de but, ouais, et pour les meufs qui vont avoir besoin de cette précision et de cette préparation, ouais, c'est ça, précise dans ce que fait l'adversaire, comment on va s'adapter et tout. Et je pense que oui, pour les coachs, c'est devenu, ouais, bah, c'est même plus indispensable. Moi, personnellement, ce que moi je pratique et qui me fait énormément de bien, c'est de débriefer sur mes matchs.
Ouais.
C'est-à-dire que dans la préparation, je suis pas ultra précise parce que si je connais mes adversaires et que j'ai besoin de cette fraîcheur mentale, cette ouverture d'esprit maximale sans rien prévoir. Maintenant, je débriefe beaucoup mes matchs et ce que je fais parce que j'ai besoin de me voir pour avoir ce recul, de comprendre ce que des fois, tu sais, après le match, tu dis, ouais, sur ça, j'ai été horrible. En fin de compte, tu vois
Ouais.
l'image, tu dis, bon. J'ai
Non, c'est pas
raté, mais ça
ouais.
va, c'est pas juste.
Ouais.
Toi, t'as l'impression que j'ai été ridicule, c'était vraiment, bon, bah, écoute, tu vas sauter, par exemple, sur un shoot, j'ai sauté, j'ai attendu, voilà, j'aurais dû au dernier moment mettre un coup de poignet, un truc, mais ça valait pas le coup non plus de s'acharner sur soi à ce point-là. Et puis, ouais, pour régler des petits trucs, c'est ultra intéressant pour moi de débriefer mes propres matchs, et même de revoir les matchs en collectif, parce que je trouve ça dur à chaud d'avoir le recul. D'analyser le match, quoi.
Bien sûr. Et même au niveau de toi du duel de tireur GB, tu t'en sers pas forcément. Bon, après, tu connais les gardiennes que tu rencontres très souvent, j'imagine, mais c'est vrai que des fois, on pourrait se dire que ça donne quelques petites clés sur les pièges qu'elles peuvent tendre ou sur leur façon de se positionner, surtout sur les tirs d'ailes.
Ouais, mais pas plus en fait.
Je vais
Enfin,
poser
pas
une
plus,
question
mais.
piège.
Non, parce que tu vois, c'est pas ma manière de fonctionner en fait. Mais
Ouais.
en fait, c'est important de dire pour les gens qui écoutent que tu vas interroger une autre élire qui va te dire
Bien
tout à
sûr.
fait l'inverse, quoi. Enfin, je sais que l'élire avec qui moi je travaille, Logan Pina, elle fait énormément de vidéos et c'est important pour elle, c'est nécessaire et tout. Elle est dans son efficacité avec ça. Mais moi, c'est vraiment tout l'inverse. J'ai le sentiment que j'ai besoin de me concentrer sur moi et que, ouais, quand je vais arriver au shoot à l'aile, j'ai besoin d'avoir des appuis rapides et courts, j'ai besoin de sauter, de placer mon bras, d'attendre, de fixer, et que c'est là-dedans que je vais être en réussite et que finalement, que ce soit Pierre, Paul, Jacques dans les buts, une gardienne sera en capacité de s'adapter et de ch pas de
Bien sûr.
changer toute sa manière de gauler, mais je peux pas te dire, ouais, cette gardienne, elle aura tendance à jouer en miroir et à suivre, mais tout autant le shoot d'après pourra faire autre chose. Donc j'ai pas envie de m'adapter à elle, j'ai envie de jouer mon propre jeu, quoi.
Ok. Alors, je vais t'emmener dans tes souvenirs lointains, un vieux flashback. Non, moi, je t'avais vu t'entraîner avec Fleury à l'époque à Clermont-Ferrand, quand vous aviez fait la Coupe de la Ligue.
Ouais.
Ça date,
Wow.
hein?
Ouais, trop cool.
Et justement, à l'époque, tu étais entraîné par Fred Bougeant. Et je voulais revenir justement sur les managers dont on parlait tout à l'heure. Tu en as connu beaucoup. Et est-ce que justement, c'est compliqué de s'adapter à ces différents styles et à ces changements quand toi, tu changes d'équipe ou que tu vas en équipe de France ou...
Ouais. C'est tout un sujet, hein, les managers. Et oui, en effet, j'ai connu un peu de tout, vraiment, quelque chose de très varié. Alors moi, déjà, de base, et ça, c'est pareil, c'est pas attenant à eux, c'est que j'ai toujours un peu de mal avec le fait qu'on me dise ce que je dois faire. Donc,
Ouais.
du coup, et du coup, déjà, ce truc de... Ouais, ce truc de hiérarchie et tout, c'est quelque chose, moi, où j'ai du mal. Alors que bon... C'est obligatoire, enfin, c'est obligatoire dans le sport et surtout dans ton apprentissage, évidemment, que tu as besoin d'entendre ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc, moi, en fait, j'ai rapidement pris le parti parce qu'il y a eu de tout dans les comportements et notamment de la part de Fred Bougeant que j'ai eu pendant 4 ans. Et il fallait prendre du recul sur ça, sur des fois des comportements qui étaient incisifs ou des fois des. Simplement de l'ignorance, quoi. Je jouais 60 minutes, quoi qu'il arrive, mais il me parlait très peu. Ou parfois, quand il me parlait, ça piquait, quoi. Donc, moi, j'étais jeune, je venais d'un peu du monde des bisounours, j'arrivais de mon village, je ne connaissais pas du tout tout ça, ni tous les potentiels sacrifices qu'il fallait faire pour réussir, tout ça. Donc, ça a été dur, 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 jusqu'au moment où je me suis dit. Bah, tu sais quoi? Et puis c'était pas facile non plus avec certaines filles du groupe qui me rendaient la vie vraiment compliquée à
Ouais.
me chipper à l'entraînement, à me regarder mal, à tout ça. Et moi, je pleurais beaucoup, tu vois. Je rentrais chez moi, je pleurais, j'étais là, mais attends, mais c'est ça, mais c'est dur de ouf. Pourquoi moi j'aime le handball, j'ai pas envie de prendre aussi cher, tu vois.
Ouais.
Et je suis revenue un été et je me suis dit, tu sais quoi? Sois si forte. Que la question se posera pas. Soit si investi chaque entraînement, soit si, tu vois, et je me suis dit, OK, il faut que je sois à 100% tout le temps, pas à 100% tout le temps, mais genre, que je me donne toujours à fond pour que je sorte de chaque entraînement en mode zéro regret. Je pouvais pas donner plus. Donc, si tu veux me reprocher quelque chose, ça peut pas être sur mon investissement et mon envie d'être là, tu vois. Et ensuite, ça a été pareil aussi. Ouais, c'est ça, en mode, je vais tellement performer que la question de ma présence dans l'équipe se posera pas. Et qu'après, je suis rentrée même en équipe de France jeune. Il y avait eu un moment un peu difficile. J'avais eu les croisés, j'étais revenue. Bah, du coup, les statuts avaient. Enfin, voilà, quelqu'un m'avait remplacée, etc. Et je suis rentrée dans cette même logique, tu vois. Dans ce truc de. Faut que ce soit indiscutable. La vérité du terrain doit être supérieure à tout le reste autour. Et à ce moment-là, j'ai créé vraiment mon caractère et je me suis créé une telle déter qu'après, je m'en foutais, quoi. Je traçais.
Ouais. Mais pour la petite histoire, sur cet entraînement qui était ouvert au public et où on t'avait vu, il avait justement été très dur avec toi. Donc, tu vois, ça m'a marqué, je m'en rappelle, surtout quand on t'a vu après percer et performer, mais il avait été hyper dur avec toi, vraiment. Et après, voilà, quand on a vu ton parcours et ce que comment tu as pu tirer ton épingle du jeu, voilà, c'est vraiment, ça force le respect.
Merci beaucoup.
Ben non, mais très, très sincèrement. Je vais continuer. Je voulais parler un petit peu de. Est-ce que toi, alors, tu me disais, hein, tu es beaucoup dans la spontanéité, dans vivre le moment présent, mais est-ce que malgré tout, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, tu as des petites routines les jours de match ou tu as des choses que tu fais que si tu les fais pas, tu vas pas être bien?
Ben ça, c'est intéressant parce qu'en 2016, quand le prépa mental arrive, je lui dis, tiens, je vois des filles qui ont des routines et je vois que ça les rassure. Est-ce que je pourrais m'en créer moi aussi pour avoir ce truc rassurant? Il me regarde, il rigole, il dit, mais toi, c'est impossible. Genre, vraiment, tout ce qui va être routine va justement t'enfermer et te stresser, alors que toutes tes préparations de match, entends le bien, seront différentes. Et c'est là-dedans que tu vas te sentir bien. Et ça, c'est pour ça que c'est important de rencontrer ce genre de personnes qui te déculpabilise de pas être comme tout le monde, mais que c'est
Ouais.
OK. Et qu'il ne faut pas que tu te forces s'il y a un truc que tu sens pas. Maintenant, ouais, là, on avait l'habitude à Bourg-Péage, tous les matins à 10 h, de se retrouver pour aller boire un café avec les filles, avec celles qui voulaient, il y a zéro obligation, mais on se retrouvait dans le même café, à faire la même commande, à lire nos horoscopes et à triper et à commencer à parler du match de manière informelle. Putain, mais elle, tu sais, si elle est là, machin, nous, on l'a senti comment cette semaine d'entraînement? Moi, tout ça, de commencer à être dans l'échange sur le début de journée, ça me semble nécessaire et ça avait l'air d'un moment informel et lambda, alors que pour moi, c'est vraiment ultra utile. On a réussi, avec l'arrivée aussi des filles de BDP, on a réussi à le remettre un peu à Chambray. Mais des fois, Mathieu Lanfranchi, notre coach à Chambray, met des entraînements les matins de match. Et je trouve
D'accord.
ça très cool aussi. Tu vois, des trucs où pareil, tu commences, tu prends un petit peu tes repères, tu réveilles ton corps, je trouve ça cool. Mais moi, sur les jours de match, ou même sur tous les jours, j'essaye de me mettre des routines de. Je fais du yoga,
D'accord.
des routines de réveil, tu vois, de réveil articulaire, musculaire, de prendre un bon petit déj. Tout ça, c'est des choses qui me font du bien. Si je le fais pas, ça va pas me traumatiser, ma journée va quand même bien se passer. Mais c'est certain que vu que ça me fait du bien, j'essaye de me l'imposer. C'est plutôt dans cette démarche-là. Mais c'est pas si je le fais pas.
Ouais.
Ça va tout changer, mais c'est si je le fais, clairement, ça me met dans un good mood, quoi.
Ouais, c'est toujours plus quoi. Je vais parler aussi de ta nouvelle casquette depuis 2 3 ans. T'es rentré un petit, enfin, tu as fait un petit peu de consultante. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui t'avait vraiment plu, que tu voulais après, pourquoi pas, persévérer là-dedans plus tard, ou si c'était juste l'occasion et puis. Voilà, tu t'es bien amusé, mais sans plus.
Bah après, faire ça plus tard, c'est pas vraiment une option parce que si on parle du consulting pur, bah voilà, il s'agit d'une compétition féminine par an de
Ouais.
1 mois, tu vois. Donc en
Ouais.
soi, si ça reste ça, non. Enfin, non, enfin, pas juste pas possible, quoi. Mais non, j'ai adoré
Ouais.
ça. J'ai adoré ça. C'est pour ça que
D'accord.
je renouvelle l'expérience quand on m'en donne l'opportunité. Alors, la question est toujours la même. Oui, je préférerais être sur le terrain si j'avais le choix. Mais là, en l'occurrence, tout ce qui a pu se passer à Bein Sport, c'est beaucoup de bienveillance, puisque avec Marie Patrux, Thierry Omeyer, c'est quand même aussi un environnement ultra sain. Parce qu'on pourrait se dire, tu vois, la télé ou ce monde-là, c'est pas non plus toujours forcément très accueillant, ou tu vois, si tu arrives en tant que, voilà, mais en tant que consultante, c'est très confortable. Et ils ont été adorables avec moi, et franchement, j'adore ça. Je suis à l'aise, je n'ai absolument aucun retour sur ce que ça peut donner, mais moi, je passe toujours un bon moment et ça me fait plaisir de pouvoir participer à la compétition à ma manière, tu vois, mine de rien.
Ok, toujours un petit peu sur ton passif. 2018-2019, je vais encore t'envoyer des fleurs, mais t'es élu meilleur ailier gauche de la Ligue des Champions. Et je voulais savoir si toi, alors on sait qu'on fait un sport collectif et que les distinctions personnelles passent au second plan, mais est-ce que toi, tu as senti qu'à ce moment-là, tu arrivais à un aboutissement au niveau de ton poste en te disant, bah là, difficile de faire mieux que ça, quoi. En termes de poste pur, hein, je sais pas.
Alors, l'aboutissement, je ne l'ai pas senti à ce moment-là. Je l'ai senti au Mondial 2017. Clairement, en Allemagne, j'ai jamais été aussi forte que là, tu vois. Parce que
Ouais.
je me sens dans une. Je suis fraîche, je me sens dans une déter. Je suis arrivée à Metz il y a quelques mois juste avant. Là, je fais un mondial incroyable, je fais une finale. Enfin voilà, c'était lunaire, hein, les buts que j'arrive à mettre. Je sais même pas. Tu sais, j'ai pas de feedback sur ça. C'est des choses que tu fais jamais à l'entraînement, mais qui passent en finale parce que tes tripes sur la table, tu vois, vraiment,
Ouais,
c'était.
bien sûr.
Je me souviens que je me lance dans un contre externe ou dans le shoot que je fais où je suis quasiment hors du terrain, en mode, mais d'accord, c'est impossible que je rate, c'est impossible que je rate, parce que je vais y mettre tellement mon cœur que c'est pas possible. Je sais pas comment t'expliquer.
Ouais, je vois ce que
J'étais
tu veux dire.
prête, quoi, j'étais prête. Maintenant, Non, quand j'ai la distinction de meilleur ailier gauche en mai 2019, quand on est au Final Four, non, là, le ressenti, il est très différent parce que je suis en burn-out, mentalement, c'est très, très, très compliqué. Donc, en
Ouais.
fait, je le vis. Tu sais, c'est comme si à ce moment-là, j'avais plus d'énergie. Donc, même quand je reçois le prix, je suis
Ouais.
amorphe un peu, je regarde, je fais genre.
Mmh.
Ouais, j'ai l'impression d'être hors de mon corps un peu, je le vis genre. Ouais. Oh cool, merci.
Ouais,
Et là, je me dis, voilà, c'est chaud parce que tu vis probablement l'une des distinctions vraiment ultimes ou tout, et j'arrive pas à le vivre pleinement. Et là, je me dis, ah ouais, ça fait chier. Jusqu'à l'Euro 2018, où là, j'exulte, où vraiment, c'est la folie de gagner à Bercy, nanana. Après, ouais, l'année 2019 est vraiment compliquée parce que j'arrive pas à vivre d'émotions sur le terrain. Je peux faire un match à 7 sur 7 et un match à 1 sur 7. Et je ressens plus rien, tu vois.
d'accord.
Donc là, ouais,
Compliqué. Ouais.
c'est l'année compliquée, ouais.
Au niveau de ton futur, est-ce que tu t'es donné une deadline ou est-ce que tu dis j'écoute mon corps et mon esprit et quand j'en aurai marre, ça sera fini?
Ouais, alors, moi, pareil, il faut savoir que depuis le début de ma carrière, je me dis, dans un an, j'arrête, quoi. Je me dis à chaque fois, c'est sûr, j'arrête dans un an. Et je le dis depuis le début, les gens se marrent en mode, ouais. Parce que j'aime ça, tu vois, malgré tout, mais j'ai envie de plein d'autres choses. Donc il y a toujours cette ambivalence, mais oui, j'écoute mon corps et mon cœur dans le sens où je veux, et avec ce qui s'est passé aussi en 2019, puis ensuite en 2020, l'arrivée de la blessure et tout, enfin ça va ensemble. Je veux prendre du plaisir et vivre des émotions sur le terrain, ça reste la grande priorité. Et avoir envie d'aller m'entraîner tous les jours, de retrouver mon groupe et tout. Si ça commence à s'estomper, clairement, oui, je sais qu'il sera temps de passer à autre chose. Et puis aussi, moi, je vis au rythme de projets qui me font vibrer, quoi. Donc, si je retrouve un projet qui me fait vibrer ou si je continue à me dire, OK, je suis en vrai, pourquoi pas. Mais après, s'il n'y a rien qui me fait vraiment triper, j'irai chercher ça dans autre chose. Tu vois, la prépa mentale de Chambray me disait, toi, ça se sent, t'as besoin de vivre des expériences, d'explorer, de vivre des trucs nouveaux, de sortir de ta zone de confort. Ça existera aussi après le handball. Donc c'est pour ça que oui, quand on me propose la télé, bah, vas-y, chaud. En fait, toutes les opportunités, je les saisis pour tester et puis pour voir si ça me plaît. Et voilà, quoi. Si c'est
Ok.
pas le handball, ce sera dans autre chose. Et faut juste que ça pète, quoi, que ce soit cool.
Ok. Je te pose la question qui fâche tout de suite, comme ça après on n'en parle plus.
Ouais, parlons de.
Non,
Vas-y.
mais
Non,
je parle
non,
pas,
ça fâche pas du tout.
je vais pas rester longtemps sur les JO, mais juste savoir si c'était quand même toujours dans un coin de ta tête ou. Ou comme tu dis, toi de toute façon, tu vis plutôt au jour le jour et puis bah tu verras ce qui arrivera, quoi.
Mais tu sais que c'est paradoxal parce que là, jusque-là, en effet, je disais, et je vis au jour le jour, il y a ce truc évidemment, de prendre du plaisir et tout, mais plus ça se rapproche, plus j'ai la dalle, quoi.
Ouais.
C'est une réalité. Parce que ça se rapproche et que moi, là, je vais pas te mentir, je m'entraîne comme une folle tous les jours. J'ai pas vraiment. J'ai coupé un petit peu, je prends soin de moi, c'est-à-dire, je te dis, j'ai fait une semaine de retraite, surf, yoga et tout, mais voilà, je faisais deux yogas par jour, un surf par jour, et j'allais courir le matin. Enfin, je me sens bien dans mon corps, comme je me suis pas sentie bien dans mon corps depuis longtemps. Du
Ouais.
coup, je me sens bien dans ma tête. J'ai trouvé un vrai équilibre avec le fait que, avec mon entourage pas loin, avec les voyages, avec tout ça, je suis en train vraiment de cerner ce qui me fait du bien. Et du coup, je me dis franchement, feu quoi. Tu vois, si on me
Ouais.
laisse encore l'opportunité d'avoir une chance. Et même, tu vois, je me suis dit même, ouais, même si on me dit ouais, ou si Olivier me dit ouais, Manon, nanan, ça va être chaud, je vais lui dire, tu sais quoi, je vais me donner à 1000 quoi. Je vais me donner,
Ouais.
sache juste ça, c'est que moi, avec moi-même et vis-à-vis de vous, et vis-à-vis, je vais me donner à 1000% jusqu'à l'échéance. Et
Oui.
comme ça, si j'y vais, c'est la folie. Si j'y vais pas, bah, j'aurais kiffé tous les jours jusqu'au moment, tu vois. Donc,
Ouais, et puis pas de regret, quoi.
bah ouais, en vrai, c'est ça, tu vois. Et là, je suis en train de déployer, je t'avoue, quelques moyens supplémentaires là pour préparer ma saison et juste tout au long de la saison aussi, en termes de soins, en termes d'accompagnement, en termes de plein de choses. Comme ça, j'ai vraiment envie de me sentir ultra sereine l'été prochain, quoi qu'il arrive où je me trouve, en mode waouh, ok, j'ai tout donné, je suis là, je suis pas là, pareil, tu vois.
Petite question sur tes clubs passés quand même, parce que malheureusement, il y en a qui ont un peu été dans la difficulté, enfin qui le sont même beaucoup. Je voulais savoir justement, toi, alors sans rentrer dans les détails des problèmes financiers, hein, parce que ça reste des choses obscures et puis qui ne nous regardent pas forcément, mais en tout cas, comment tu vivais ces problèmes financiers dans le handball féminin et dans les clubs de haut niveau? Bon, toi, tu percevais ça.
Ben, moi, j'ai beaucoup cette tristesse humaine, quoi, des gens qui se sont énormément investis et que j'ai vu dévaster, que tout s'écroule en si peu de temps, parce que c'est des années et des années de travail, de construction, comme n'importe qui, tu vois, qui va se faire virer d'une boîte dans laquelle il a investi depuis 10 ans ou quoi que ce soit. Enfin, là, c'était ça, quoi. J'ai vu des gens ultra, ultra malheureux, puis c'est toujours difficile de retrouver un projet dans lequel rebondir et qui va potentiellement te ressembler autant en termes de valeur, d'identité. Tu retrouves jamais la même chose et en fin de compte, tu le sais. Et bah là, c'était beaucoup le cas pour Broad PH. J'ai beaucoup plus vécu l'échec que Fleury. Quand je suis partie, on était en Ligue des Champions. Donc ça s'est fait vraiment plus petit à petit et j'étais un peu plus loin de tout ça. Même si c'est, voilà, enfin, voilà, ça m'a fait du mal et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens à qui c'est arrivé. Mais à Broad PH, j'y étais, quoi. Et ouais, plutôt de voir et même pour moi hein, parce que honnêtement c'était un club, enfin c'est un club magnifique, tu vois, donc c'était triste de voir un truc aussi génial se péter la gueule, quoi.
Manon, je voulais aussi te parler de ton projet, le mettre un peu en lumière, parce que j'ai vu que tu étais assez engagé dans tout ce qui est sensibiliser le public au niveau des problèmes féminins. Donc, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire quelques mots et voilà, expliquer un peu à nos auditeurs ce qu'il en retourne.
Ouais, en fait, moi, l'été 2020, je crois que c'était ça, je suis devenue ambassadrice d'une marque qui s'appelle Jo, qui s'écrit JHO, qui est une marque de nantaise, en fait, de nana qu'on crée une marque bio de protection hygiénique. Et maintenant, sont hyper diversifiées dans toutes les protections possibles, imaginables. Et puis aussi elles ont créé des distributeurs de protection gratuits. Qu'il est possible d'installer dans les gymnases, dans les collèges, dans les entreprises, un peu partout. Et en fait, j'adhère à fond à leur ligne de directrice, tu vois. Et du coup, c'est moi qui les contacte sur Insta. Il y a un petit coup de cœur commun. Du coup, on décide de bosser ensemble, même si on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre exactement, ce rôle d'ambassadrice. Au final, là, ça fait 3 ans que j'essaie de les accompagner. Elles se développent vraiment bien. Mais il y a encore énormément de travail sur ce sujet-là, et notamment dans la sensibilisation, puisqu'en fin de compte, les jeunes filles arrivent dans la période des règles et compagnie sans aucun accompagnement. Tu vois, à l'école, on t'en parle à peine. Donc ça, je pense que c'est improbable, en fait, hein, que très clairement, tu ne sois pas accompagnée là-dedans, et que si tu n'as pas une personne de confiance, une mère, une sœur, une pote à qui en parler, bah, tu es solo, quoi. Et puis il y a tout le sujet autour de la précarité menstruelle aussi, autour de tout simplement les gens, soit parce que c'est tabou, tu peux pas en parler, du coup tu peux pas t'en acheter, soit t'as pas les moyens, quoi, tout simplement. Et là, ça t'empêche d'aller à l'école ou d'aller au sport. Donc voilà, c'est un peu pour lever le tabou sur ça, en parler et rendre le truc tranquille. Moi, j'ai même des potes, mecs, qui peuvent pas en parler, quoi, carrément, qui ont le sentiment que c'est un sujet qui les concerne pas, ou tu vois, qui ont du mal à mettre des mots dessus. Et en fait, ce que je peux comprendre, et quand on fait une première sensibilisation avec Melvin Debat au club de Chambray, il y a des entraîneurs mecs qui sont là et qui disent franchement, nous on aimerait pouvoir accompagner les jeunes filles là-dedans, mais on sait pas, on connaît pas le sujet, on sait pas comment l'aborder, on sait pas. Donc par contre, si vous nous donnez des clés, on a envie de pouvoir le prendre en compte aussi dans la performance, dans l'état de forme des filles, de pouvoir essayer peut-être de leur donner des clés, comment essayer de lutter contre les douleurs, comment adapter les entraînements. Donc le sujet est ultra vaste. Moi là-dedans, je ne sais pas encore précisément comment je vais pouvoir agir. C'est clair que la partie sensibilisation associée à la partie installation de distributeurs, ça me semble approprié. Donc l'idée, ça serait peut-être ça, d'essayer dans les équipes, dans les écoles, et puis ensuite de pouvoir convaincre le département, la région de faire des installations. Et ça serait, je pense, une démarche assez géniale, quoi. Donc voilà, puis ça parle à tout le monde maintenant, tu vois, c'est un sujet qui est peut-être un peu plus simple à aborder, et même pour les politiques de s'engager là-dedans, c'est assez logique. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner par la suite, quoi.
Ah, puis enfin moi pour entraîner des filles depuis très longtemps, il est vrai que si en tant que même manager ou entraîneur tu prends pas ce facteur en compte, c'est forcément compliqué et tu es forcément dans l'erreur parce que quand tu entraînes des groupes féminins, comme tu disais, ça fait partie prenante du truc. Il faut que faut que tu aies cette donnée entre les mains quoi.
Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, c'est les nouvelles générations des nanas auprès de qui on intervenait qui commençaient presque à nous donner des clés. Parce que nous, notre génération, c'était pas un sujet, quoi. Vraiment,
Ouais,
personne
bien
n'en
sûr.
parlait. Alors que elles, ouais, si, bah nous, notre coach au pôle, il met un papier sur la table de marque à tous les entraînements. Puis on peut noter si on est en période de règles ou pas, si on a mal ou pas. Comme ça, t'es pas obligé d'en parler, de mettre des mots dessus, mais tu écris et tu. Je dis, ouais, bah carrément, ça peut déjà être une clé. Enfin, je veux dire, il y a plein de petites solutions qui peuvent exister, mais c'est à nous aussi d'essayer de les regrouper et de pouvoir les donner aux entraîneurs, parce qu'en fait,
Bien
c'est
sûr.
pareil, tu vois, c'est comme l'histoire des douleurs. Il n'y a pas d'études de fait, puisque ce n'était pas un sujet, donc on ne sait pas comment régler les douleurs. Bah, là, c'est pareil, les coachs, ils ont envie, mais ils ne sauraient même pas où regarder, quoi faire pour être accompagnés. Donc, il faut pouvoir créer des supports comme ça d'accompagnement, et je suis sûre que ça pourrait intéresser pas mal de monde, ouais.
Ouais, et puis je pense que, enfin, au niveau de la femme, tout le processus d'accompagnement post-grossesse et tout, c'est beaucoup développé dans le sport en tout cas. Donc, c'est l'étape d'après, qui me semble primordiale, comme tu le dis, quoi.
Ouais, ça va avec, ça va avec. Il faut pouvoir faire évoluer tout ça, encore une fois, tranquillement. On n'est pas dans la rue en train de manifester. Ouais, ça doit être ça tout de suite, maintenant. C'est pas normal. Non, tranquille, il faut, tu vois, pour changer les mentalités et les habitudes des gens, ça prend clairement du temps. Par contre, en effet, il faut pouvoir prendre des initiatives, sinon ça changera pas, quoi.
Et on va terminer cette interview. Je vais te laisser deux petites choses à nous trouver. Si tu avais un regret dans tout ce que tu as fait.
C'est très très clair. Et c'est marrant, c'est mon agent, André Golitch. C'est trop bien d'avoir un agent qui a été sportif de haut niveau,
Ouais.
qui m'a dit, perds pas de temps avec les gens, avec les mauvaises personnes, tu vois. Une carrière, ça passe vite, et tu regretteras ces moments où tu t'es trop attardé sur les gens qui te tiraient vers le bas, ou sur les gens un peu méchants, ou tu vois, qui ne dégageaient pas simplement de la bienveillance. Donc ouais, je dirais ça. Mais ça, c'est pareil dans la vie, quoi. Et
Ouais.
donc, s'éloigner dès que possible des gens qui te tirent vers le bas, ou juste qui ne te tirent pas vers le haut. Et puis, par contre, optimiser à fond les moments où. Donc ouais, moi, il y en a eu forcément des moments où j'étais entourée, pas entourée, hein, c'est pas non plus. Mais où j'ai eu des gens un peu malveillants autour de moi, et que ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et ça, c'est terminé. Et clairement, au retour de blessures aussi, dans la prépa mentale du CERS, c'est énorme, hein, parce que ça a été vraiment des gens un peu clés dans ma. Ils m'ont dit, elle m'a dit, voilà, terminé, fini de subir, tu subiras plus. Et ce truc est fou, parce que ça marche pour le physique, mais aussi pour le mental. De non, s'il y a une situation, quelque chose qui te dérange, ou quelque chose calmement, il n'y a pas besoin de. Mais tu vois, ou si tu as le sentiment que quelqu'un va trop loin avec toi, c'est plus difficile à juger à 20 ans qu'à 30. Mais
Bien sûr.
non, c'est mort, je subirai plus. Je rentrerai plus chez moi, je pleurerai plus chez moi parce que trop dur de me prendre cette claque dans la gueule, trop dur de me prendre cette remarque. Ce truc-là, je l'ai mal vécu. Non, non, non. Ce truc-là, je l'ai mal vécu. 5 minutes après, je viens t'en parler. en te
Ouais.
disant ça, je l'ai mal senti, peut-être que c'est moi qui l'ai mal perçu. Puis tu sais, les trois quarts du temps, les gens qui vont te mettre une claque, ça aura rien à voir avec toi, quoi. Il y aura,
Ouais, bien sûr.
tu vois, bien souvent, ça n'a rien de personnel, c'est juste que la personne, elle est pas bien à ce moment-là, ou alors bien souvent aussi, c'est un malentendu. Donc,
Exactement, ouais.
ouais, éclaircir les choses, parce qu'en fin de compte, t'as pas le temps. T'as pas le temps, tu vois. Toi, tu vas gamberger alors qu'en fait, ça sert à rien, quoi. Donc, arrêtez de
Ok.
gamberger. Ouais.
Et un souhait.
Ah ouais, c'est la question la plus ouverte et la plus difficile, tu vois, du truc.
Ah oui.
Ouais.
T'as le droit de dire quelque chose que t'as déjà dit, hein. Après,
Ouais, bah parce que de toute façon, t'as bien capté
j'ai bien
le
compris
mood,
dans quel état d'esprit
il
tu étais, oui.
est.
Oui.
Ouais. Non, mais parce qu'en fait, c'est un état d'esprit qui peut paraître un peu léger ou un peu. Mais en fait, c'est le truc le plus dur du monde, quoi, de pouvoir juste kiffer tous les jours, quoi.
Bien sûr, je
De
suis
pouvoir
entièrement d'accord avec
continuer
toi.
à se détacher de. À se détacher des trucs un peu relous et à. C'est ce que moi, il faut presque me freiner, quoi. Là, le coach, notamment, a chambré, il dit, ouais, ton investissement à 100% et tout, c'est la folie et ça aide énormément ta performance et le groupe. Mais il dit, faut aussi que tu sois en capacité de prendre soin de toi au quotidien, parce que plus tu vas réussir à prendre soin de toi, plus tu seras en capacité de prendre soin des autres. Et c'est à ce moment-là que tu vas te sentir vraiment bien. Parce que j'avais tendance à, tu vois, à vouloir que tout se passe bien pour tout le monde. Et du coup, des fois, quand moi, je vais pas bien, bah, je me replie un peu sur le bien-être autour de moi. Et dis, non, non,
Oui.
il faut d'abord que tu puisses, toi, aller bien avant de pouvoir agir positivement sur les autres. Donc ouais, envie de kiffer au quotidien pour pouvoir kiffer avec le groupe et me créer toujours plus de bonnes expériences, d'émotions, et de prendre les émotions négatives en étant toujours persuadé que tu vois que ça va pouvoir servir pour la suite, quoi. Un match horrible le mercredi et la remise en question du jeudi et du vendredi pourra t'apporter un énorme moment de joie le samedi.
Bien
Ça,
sûr.
c'est à court terme, mais ça peut être aussi le cas. Moi, les années de galère 2019 et 2020, forcément, derrière, sont en train aujourd'hui de. Enfin, m'ont construite pour vivre des moments encore plus plaisants aujourd'hui, quoi. Donc voilà, puis kiffer avec les bonnes personnes, toujours s'entourer des bons. Et puis
C'est
dans
ça.
ce cas-là, ouais, c'est ce qui permet de passer les bons moments pleinement et les mauvais moments bien mieux.
T'as bien raison. Bah écoute, je vais te remercier déjà pour avoir pris de ton temps parce que nos auditeurs savent pas, mais tu es au Canada, tu es très loin et c'est très sympa d'avoir pris un petit moment dans ton repos. Et puis, bah, comme toujours, je vais te laisser le mot de la fin.
Ben, moi, c'est un peu. Ça va être une lecture, du coup. Un livre que ma collègue et amie inspiration au quotidien, Melvin Debat, a beaucoup lu et qui s'appelle Ubuntu. C'est une philosophie africaine et c'est un bouquin juste très inspirant. Et ce livre m'a été offert par mon coach il y a quelques mois et que j'ai dévoré là cet été et que je vais lire et relire et relire. Et voilà, je vous invite à lire ça parce que c'est centré autour de la bienveillance, de l'empathie et du fait que si tu envoies du positif, c'est bien pour les autres, mais c'est aussi et principalement très important pour te sentir bien. Et c'est top. C'est top. L'importance de l'empathie, l'importance du pardon pour te décharger toi-même et ouais. Et c'est la base. En ce moment, je suis très, très philosophique. Non, mais je suis très là-dedans. Et je te dis là de pouvoir contrebalancer la pression et le stress et la tension du sport de haut niveau avec des lectures comme ça ou avec une pratique régulière du yoga ou de choses comme ça. Donc j'aurais envie de dire globalement aux gens qui écoutent, prenez soin de vous d'abord.
Merci Manon.
Merci à toi.
À la suite de son interview, Manon a souhaité vous laisser un petit message audio par le biais de cette chanson. Gardez en tête les phrases et bonne écoute.
J'ai pris du temps pour mon métier, j'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, jusqu'à étouffer, étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait là. Et j'aimerais souffler, souffler. Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille blanche.
Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, allongé les secondes, on a pris le temps.